Merci beaucoup pour votre présentation. Merci de votre invitation. Je suis très heureux de me trouver parmi vous ce soir. Quelque chose de nouveau pour moi, puisque effectivement, comme l'a dit celui qui m'a présenté, on n'a pas forcément l'habitude de s'exprimer en dehors de nos sphères de travail ou de famille. Et dans mon cas, c'est la toute première fois que je me rends à une université populaire. Donc, je vais essayer de vous présenter modestement quelques recherches que je mène sur le sujet en essayant de les rendre les plus accessibles possible. Et comme effectivement cela a été dit, les travaux sur les communs, les biens communs, les communs, sont extrêmement riches. Le dictionnaire qui fait plus de 1000 pages, bon, il faudrait des heures et des heures pour ne serait-ce qu'introduire le sujet. Et ce soir, nous n'avons qu'une petite heure de présentation, donc je donnerai simplement quelques aperçus sur les biens communs. Alors, pour initier ma présentation, j'aime bien prendre cette image du Petit Prince de Saint-Exupéry. Alors, si vous vous souvenez de l'histoire du Petit Prince, il se balade de planète en planète à un moment donné, et puis il découvre une petite planète sur laquelle se trouve un homme très affairé. Et pour cause, c'est un businessman, et ce businessman est occupé à compter. Alors, ça étonne beaucoup le Petit Prince, qui se demande bien ce que cet homme, tout seul sur sa planète, peut être en train de compter. Et donc, il l'interroge, il lui dit « Mais qu'es-tu en train de compter ?» Et le businessman lui dit « Laisse-moi tranquille, j'ai beaucoup de travail, je suis en train de compter les étoiles. » Alors, nouvelle interrogation du Petit Prince, pourquoi comptes-tu les étoiles ? Eh bien, parce que chaque fois que j'ai compté une nouvelle étoile, elle m'appartient. Si vous vous souvenez, hein, dans le Petit Prince, c'est vraiment ce passage est frappant parce que les communs ont beaucoup à voir avec l'appropriation, hein, les questions de propriété, même si évidemment c'est plus vaste que cela, mais on se trouve souvent confronté, et encore plus depuis que nous sommes dans une société de l'information, une société de la connaissance, à des individus, des entreprises et des États qui cherchent à s'approprier les savoirs à partir du moment où ils les ont découverts, un peu comme le businessman. Alors nous sommes ici à l'Université populaire de philosophie, et quand on remonte à l'étymologie de l'école, école, c'est le fait de, c'est scolé en grec, c'est le fait de s'arrêter pour prendre sa respiration. C'est le moment du repos aussi. Hein. C'est le moment où on peut, qui est propice à la réflexion, à l'interrogation. Et c'est justement tout l'inverse de l'affairement de ce que font les hommes d'affaires au quotidien. À tel point que quand ça a été traduit, le terme loisir qui vient du grec scolé en latin, on l'a traduit par osium, le loisir c'est osium, et le contraire du loisir c'est le neg, la négation du loisir c'est le negotium, c'est le négoce, hein, c'est le fait de faire des affaires. Et ici on est bien, je l'espère en tout cas, dans un moment de loisir, mais de loisir où il s'agit de vraiment réfléchir sur des choses importantes. Alors, autre élément aussi par rapport au commun, c'est que le Petit Prince, en France, aurait dû, comme l'ensemble de l'œuvre de Saint-Exupéry, entrer dans le domaine public. Et il se trouve que cela n'a pas été le cas, alors que du Canada au Japon, pour un grand nombre des pays dans ce monde, les œuvres de Saint-Exupéry appartiennent au domaine public. Chez nous, diverses exceptions aux droits d'auteur. D'abord, le fait que notre durée de droit d'auteur est plus élevée que dans nombre de des autres pays voisins ou plus lointains. On est à 70 ans. Mais le fait que Saint-Exupéry soit mort pendant une période de guerre, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, son avion est tombé dans la mer Méditerranée, eh bien, cela a ajouté une exception supplémentaire aux droits d'auteur, ce qui fait que la famille qui est descendante du Petit Prince, heureuse de pouvoir exploité par des produits dérivés, l'œuvre de Saint-Exupéry a tenu à ce que soient perpétués les droits d'auteur. Alors qu'on pourrait considérer, comme au Canada ou au Japon, que l'œuvre de Saint-Exupéry, et notamment Le Petit Prince, appartient au patrimoine commun de l'humanité et devrait pouvoir être accessible largement à tout un chacun. Donc c'est un peu un symbole des batailles contemporaines autour des communs. D'autres exemples, hein, qui font que les biens communs sont au cœur des problématiques actuelles, on pourrait citer l'écologie, les sciences du vivant, les biotechnologies et tout ce qui englobe l'économie de la connaissance. Pour ne citer que l'écologie, en introduction, on a parlé de l'air, de l'eau, de la terre. Dans cet ouvrage que j'ai apporté, pour ceux qui seront intéressés tout à l'heure au moment des questions-réponses, mais Cause commune de Philippe Aigrin, qui date déjà de 2005, il prend l'exemple de variétés de riz basmati, un exemple que j'aime bien citer aussi parce que des firmes comme Monsanto aux États-Unis ont cherché à la fin des années 80, au début des années 90, à s'approprier le génome de variétés de riz basmati indienne pour pouvoir avoir l'exclusivité de leur exploitation. Évidemment, et contraindre les agriculteurs indiens à se tourner vers la firme pour acheter les semences à cette firme. Alors il y a un peu plus d'une vingtaine de variétés de riz basmati différentes et Monsanto au départ avait voulu s'approprier l'ensemble de ces variétés. Après plusieurs jugements, finalement, ils ont obtenu l'exclusivité seulement sur trois variétés, mais c'est trois parmi les plus connues. Et donc, nombre d'agriculteurs en Inde, par exemple, sont dépendants de firmes américaines pour pouvoir cultiver des variétés végétales qu'ils cultivaient depuis toujours, enfin, dans cette partie-là du monde. On est dans les problématiques actuelles autour du transhumanisme, dans aussi l'exploitation avec les sciences du vivant, d'éléments qui concernent notre propre être en tant qu'être vivant, hein, et les effets induits par les sciences et les technologies du vivant renouvellent aussi le débat sur les biens communs en ce qui concerne les recherches génétiques et leur brevetabilité. Des firmes dans les pays développés sont extrêmement intéressées pour faire des affaires sur ce qui concerne le vivant. Donc c'est aussi une problématique très forte. Et puis on abordera dans notre présentation tout ce qui concerne l'économie numérique, puisque avec Internet, avec les réseaux, on a pu penser à partir des années 70 qu'on entrerait dans une société où les connaissances seraient plus aisément partagées par l'ensemble de la population et où on se rend compte que de façon croissante, en Europe, aux États-Unis avec le Millennium Act, eh bien des firmes cherchent toujours à étendre leurs droits de propriété sur ces connaissances. Donc cette question des biens communs est devenue en quelques décennies une question absolument centrale, alors pour des chercheurs à l'université, mais aussi pour la population. Alors, je voulais proposer, je ne sais pas si peut-être à la fin de la conférence, j'avais une petite vidéo sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes avec les réflexions sur les communs qui avaient lieu dans cette ZAD, mais bon, voilà, peut-être qu'on pourra la regarder à la fin. En tout cas, dans les publications scientifiques, on observe aisément que le terme de commun a complètement explosé sur ces dernières décennies. Et on expliquera pourquoi. Depuis 50 ans environ, quand on recherche sur Internet le mot de commun, on voit une croissance absolument exponentielle. Alors, pour remonter un petit peu en arrière, avant les communs, parler peut-être de ce qui existait à l'origine. Alors, je cite ici Ivan Illich, qui est un penseur un peu iconoclaste du XXe siècle, qui est un critique de la technique, mais qui a bien souligné que les communaux sont une partie de l'environnement. Alors, je le cite parce que les communaux, c'est vraiment ce qui permettait la vie en communauté dans toutes les civilisations. Et Illich disait la chose suivante, le droit des communaux, c'était le droit de passage, le droit de pêcher, le droit de faire paître des bêtes, de ramasser du bois, des plantes médicinales dans la forêt. Dans les communaux peuvent se dresser un chêne, son ombre en été accueille le berger et son troupeau, ses glands nourrissent les porcs des paysans du lieu, ses branches mortes servent de combustible pour les veuves du village. Au printemps, on en coupe quelques rameaux pour orner l'église et au crépuscule, il peut abriter l'assemblée des villageois. Donc les communaux, comme en anglais les commons, les communs, sont ces parties de l'environnement dont on a historiquement, dans les différentes sociétés humaines, jamais pensé vouloir mettre un droit de propriété. Il y avait un droit coutumier qui réglementait ces parties de l'environnement, qui ne relevait pas de la propriété privée, mais d'un droit d'utilisation reconnu. On peut remonter assez loin, au sens romain, ce qu'on appelle les res communis, les choses communes, ce sont les choses qui appartiennent à tous et que nul n'a le droit de s'approprier. Donc, dans le droit romain, était clairement reconnue la catégorie des res communis. Et il faut bien faire attention au fait que c'est pas parce que quelque chose appartient à tous que ça appartient à personne. Il y avait un autre terme pour qualifier ce qui n'appartenait à personne, c'était les res nullius. Les res nullius, elles, c'était les choses qui étaient sans propriétaire. Donc une prairie, par exemple, un champ qui est reconnu en commun, tout le monde peut y avoir accès, nul ne peut se l'approprier. Par contre, l'herbe produite par la prairie, elle pouvait être considérée par les Romains comme res nullius, c'est-à-dire faire brouter son troupeau, ou soi-même prélever de l'herbe. Bon, c'est quelque chose qui était possible à partir du moment où on le consommait. La finalité des communaux, de ces res communis, c'était pas la production marchande. C'est pour ça qu'on parlait pas de propriété privée. Il s'agissait d'assurer la subsistance des familles, la subsistance des communautés. Et ces parties de l'environnement sont absolument fondamentales. On a cité l'exemple des forêts. On va évoquer tout à l'heure la question des pâturages, qu'on soit dans les alpages ou dans les Pyrénées. Ce sont des choses de l'environnement qui ont toujours été considérées comme faisant partie de ce qui était nécessaire pour la vie en société. Et il est souvent revenu d'ailleurs aux politiques pendant des siècles de protéger ces communaux, c'est-à-dire d'interdire à des seigneurs de vouloir empêcher les villageois, empêcher le peuple, empêcher les gens ordinaires, on va dire, d'y avoir accès. Donc c'était aux politiques qui avaient une considération du bien commun, dont on en reparlera tout à l'heure, mais en tout cas du bien de la société en général, d'empêcher justement les puissants, les forts, les riches, de pouvoir s'approprier ces biens communs. Donc l'idée était que ces communaux étaient là pour aussi soutenir l'ensemble le bien général de la société. Alors puisqu'on est à une université populaire de philosophie, j'ai un goût pour la philosophie que j'ai pas souvent l'occasion de manifester dans mon travail au quotidien, mais je vais le faire avec vous pour comprendre le changement et la société dans laquelle on vit, qui est une société absolument particulière par rapport à toutes les sociétés qui nous ont précédées. Il m'a paru important de revenir sur ce que des philosophes, aussi bien dans l'Antiquité grecque que dans le monde médiéval, ont considéré comme absolument naturel pour les individus vivant en société. À savoir que depuis Aristote, un grand nombre de penseurs, on peut citer même des historiens comme Dumézil, ont considéré qu'il y avait trois grandes catégories d'activités humaines. Une activité qui permettait de subvenir à l'ensemble de la population, qui était le faire, le fait de réaliser des choses utiles pour l'ensemble de la société, ce que en grec on appelle le poiesis, et donc l'activité de fabrication. Alors on retrouve aussi bien la fabrication artisanale, ce qui donne l'art un peu plus tard dans le monde médiéval, que ce qui permet de nourrir la population. Et on y retrouve surtout le travail. Et de tout temps, une grande partie de la population a toujours été obligée de travailler pour subvenir aussi bien aux besoins des familles que des communautés entières. Il y a deux autres catégories d'activités qui sont importantes et que les Grecs avaient relevées et qui ont été conservées par la suite. C'est l'action. L'action, l'agir pour défendre les communautés. Alors pour l'action, en fait, pour préserver la paix. Et au sens politique, c'est vraiment le fait de rechercher le bien, c'est-à-dire l'union de l'ensemble des membres de la société. Et normalement, les gens d'action, au sens politique cette fois, pas au sens de la fabrication, de l'utile, sont là pour préserver la paix et le bien vivre ensemble. Puisque chez Aristote, on sait que l'homme est un animal politique, un animal social, c'est-à-dire un individu qui, dès sa naissance, se trouve plongé au sein de communautés, au sein de la société. Donc le bien commun, c'est l'union des membres de la société, le bien général de la société. Et il y a une troisième catégorie d'activité humaine qui s'appelle en grec le théoria, le fait de contempler, c'est-à-dire chez les Grecs, le fait de regarder la nature et de voir que la nature est bonne, que le cosmos, que l'ordre dans lequel on se trouve, que l'ensemble du monde dans lequel on vit est une belle chose, est une bonne chose à regarder. Alors ça a un rapport aussi avec la vérité, parce que chez les Grecs, il s'agissait aussi de contempler la vérité. Mais ce monde qu'on contemple, c'est pas un monde dont on a l'idée qu'on pourrait l'exploiter. C'est un cosmos, c'est un monde bien ordonné, une nature qui nous entoure, qui est belle et qui ne doit pas être rétrogradée à l'utile et à la possibilité de l'exploiter. Alors, cette hiérarchie des activités humaines à laquelle on participe tous à des degrés différents selon les moments de notre journée, selon les moments de notre vie, le fait qu'on soit occupé à des activités fabricatrices, puis le fait qu'on agisse en commun, qu'on agisse collectivement, qu'on agisse politiquement. En fait, le fait qu'on puisse avoir des temps où on cherche à méditer, à contempler, ce sont des activités vraiment communes à l'ensemble des êtres humains. Or, il s'est produit un phénomène important à l'heure de la révolution industrielle, c'est que cette hiérarchie a été retournée et de nos jours, la quasi-totalité des sociétés développées recherche uniquement des activités fabricatrices, le faire, partout le faire. Il faut se faire soi-même. Alors, au sens anglais, ça donne le self-made man, celui qui se fait lui-même. La réussite dans la vie ne reposerait plus que sur des activités fabricatrices. Et ont largement disparu depuis les activités de contemplation. Alors, on voit évidemment les activités religieuses ont largement reculé, mais même les activités de méditation, le fait d'avoir du temps pour soi a beaucoup reculé. On vit dans une société de la vitesse permanente. Mais même l'action politique a été largement rétrogradée aux besoins de ceux qui dirigent le faire. N'importe quel représentant politique dans nos sociétés aujourd'hui apparemment est occupé à régler des questions de croissance économique et des questions de chômage, donc de travail. Alors on pourrait, je m'écarte un peu du sujet, mais ça a une importance capitale pour l'histoire des communs, c'est que si on prend grandes révolutions que Raymond Aron avait notées, il en avait noté trois, la maîtrise du feu qui inaugurait l'espèce humaine, il avait noté que les sociétés néolithiques étaient apparues avec la culture des plantes et la domestication des animaux, et qu'on était dans la troisième très grande révolution de l'humanité, à savoir la maîtrise des processus de production, de fabrication. Nous sommes entrés dans la révolution industrielle. Et alors cette révolution industrielle, elle a eu pour effet de transformer notre relation aux communaux et notre relation au monde qui nous entoure. Tout a été considéré sous l'angle de la fabrication, de l'industrie, du fer. Alors, pour citer un économiste bien connu à Toulouse, qui a écrit un ouvrage sur le bien commun, l'économie du bien commun, Jean Tirole, on lit très rapidement dans son ouvrage qui est paru en 2016, la recherche du bien commun, le bien de la société, prend pour critère notre bien-être. Dans une société occupée à la consommation et à la production, tout revient à comment je peux assurer mon propre bien-être, ma propre consommation personnelle, mon propre bonheur personnel, individuel. Pour beaucoup d'économistes, cette société industrielle a produit une économie qui serait une économie de l'abondance. On s'est tellement mis à produire depuis 2 siècles que logiquement, on devrait avoir à notre disposition beaucoup plus de biens que ce qu'on aurait réellement besoin. Alors, 2 exemples qui montrent la contradiction manifeste de la société dans laquelle on vit, l'exemple du logement et l'exemple de l'alimentation. Si on prend l'exemple de l'alimentation, on sait sur le plan alimentaire qu'en France, la production totale et les importations actuelles suffiraient largement à nourrir la totalité de la population sur le territoire. Or, les Restos du Cœur comptent chaque année près d'1 million de bénéficiaires de leurs repas en France. Donc 1 million de personnes ne mangent pas à leur faim, nécessitent l'intervention d'associations. En 2016-2017, les Restos du Cœur ont distribué 130 millions de repas. Et il a fallu attendre une loi, au moment de la parution d'ailleurs de l'ouvrage de Jean Tirole, contre le gaspillage alimentaire, pour obliger les groupes de la grande distribution à donner leurs invendus. Et 10 millions de repas supplémentaires immédiatement ont pu être partagés par les personnes nécessiteuses grâce à cette loi qui oblige les supermarchés à distribuer aux associations leurs invendus alimentaires au moment de la fermeture. Le deuxième exemple, c'est celui du logement. Là encore, l'ensemble du parc de logements en France suffirait largement à abriter la totalité de la population. Or, plusieurs centaines de milliers de personnes sont sans abri en France. Alors, l'INSEE en recense officiellement 150 000, mais on sait que le chiffre est largement supérieur, au moins le double, alors que dans le même temps, l'INSEE recense 3 millions de logements vacants en France, sur 35 millions de logements en tout. Alors, l'INSEE attribue ces logements vacants au vieillissement de la population et à la désertification des zones rurales. Mais des candidats aux élections présidentielles qui se succèdent promettent régulièrement que toute la population sera logée, et assez rapidement, une fois qu'ils sont entrés dans leur mandat, reconnaissent que apparemment ce serait quasiment impossible. Alors si on revient à ces éléments-là sont fondamentaux effectivement pour l'économie du bien commun, mais si on revient au bien commun tel que le définissait Aristote dans l'éthique à Nicomaque, il disait que si la fin de la cité était de vivre conformément au bonheur et à la vertu, on doit faire entrer en ligne de compte les biens extérieurs, car il est impossible ou du moins malaisé d'accomplir de bonnes actions quand on est dépourvu de ressources pour y faire face. Et on aimerait souligner ici que s'il y a des déséquilibres aussi manifestes dans une société qui se veut être une société, une économie de l'abondance, alors que visiblement nous ne sommes pas dans l'abondance pour un grand nombre de biens, c'est qu'il y a peut-être un problème de disparition des biens communs, de ces fameuses ressources communes. Et c'est ce que nous allons évoquer ce soir, hein, les fameuses menaces sur les biens communs. Dans un sens politique, cette notion de commun, elle est souvent valorisée sous la forme de coopérative, le fait d'agir collectivement pour gérer des ressources communes, mais ils se définissent aussi par l'existence de menaces existentielles, de dégradation, de privatisation. Ici, il faut bien voir que ce qui a préludé à l'apparition du capitalisme et de notre société industrielle, c'est justement parce qu'à un moment donné, dans différents pays, on a autorisé des seigneurs, des personnes puissantes, à s'approprier ces biens communs. Et c'est un peu le cœur de notre propos ici, et c'est un propos qui a été montré dans l'histoire par des économistes comme Karl Polanyi, des historiens, que c'est à partir du moment où il y a eu la mise de clôture autour de ces communaux qu'on a transformé en ressources privées pour des groupements d'individus privés, des communaux qui autrefois profitaient à tout le monde. Et j'interviens ici dans un mercredi de l'économie, alors à l'invitation de collègues économistes, mais moi je suis dans les sciences de gestion, alors qu'ils sont des sciences voisines, hein. Mais on peut démontrer assez aisément que ces ressources, aujourd'hui, sont complètement exploitées par le management. Donc, c'est le phénomène du mouvement des enclosures qui apparaît au XIIe siècle en Angleterre, le fait que seigneurs ont mis des clôtures sur un certain nombre de forêts, sur un certain nombre de prairies, pour pouvoir créer de l'agriculture intensive, exploiter intensivement à leur profit ces différentes terres, que à partir de ce moment-là, des déséquilibres ont commencé à se créer. Et si on a retenu une histoire dans le langage dominant qui apparaît dans les médias, une histoire joyeuse de l'expansion du capitalisme, en réalité, dès le début de cette période, apparaissent une pauvreté qui n'est plus la seule pauvreté, mais qui est vraiment de la misère, parce que on prive d'accès à des ressources communes des gens qui en avaient besoin. Ces communaux qui sont transformés en ressources gérées dans des organisations. Alors si on regarde ce qui se passe plus près de nous sur les 50 dernières années, on a trouvé dans la revue Nature des auteurs comme Gareth Hardin qui ont cherché à démontrer que de toute façon, économiquement, ces communaux, ces communs, ne pouvaient pas être viables sur le long terme parce que les individus, les personnes dans la société humaine sont égoïstes, recherchent leur propre avantage à court terme, à maximiser leurs bénéfices, leur bien-être, comme le soulignait Jean Tirole dans la citation qu'on a montrée, et que par conséquent, vraiment, les êtres en société ne sont pas capables de s'entendre pour préserver ces fameux communaux. Et que, en l'absence de régulation, eh bien, les individus cherchent à consommer de façon incontrôlée les ressources naturelles, et cela conduit à leur extinction. Alors, il prend l'exemple d'un pâturage, qui peut être une estive dans la montagne, avec ici on voit un berger, alors la photo normalement c'est vert, mais évidemment un berger qui fait paître son troupeau, eh bien pour un penseur comme Hardin, il n'est pas possible que s'entendent de façon harmonieuse un certain nombre de bergers entre eux, parce que chacun va vouloir exploiter le plus possible intensivement à son avantage la prairie pour son troupeau. Et donc Hardin propose deux solutions pour faire face à cet homo economicus qui ne cherche pas à coopérer mais à maximiser son bénéfice individuel à court terme. Il propose deux solutions. Le fait qu'il y ait des autorités externes, soit qu'elles soient privées, soit qu'elles soient publiques, qui imposent leurs propres règles. En clair, qu'il y ait deux monopoles. deux formes de monopole, soit des monopoles publics, soit des monopoles privés ou des entreprises privées. Donc soit une régulation par le droit, soit une régulation par le marché pour empêcher l'extinction de ces communaux et empêcher que les individus courent à leur propre perte en agissant selon la logique de l'homo economicus. Et on reconnaît là la théorie libérale qu'un philosophe controversé, mais enfin qui est intéressant quand même à lire, Jean-Claude Michéa a montré hein, dans L'Empire du moindre mal, il y a une dizaine d'années, un ouvrage qu'il a publié en 2007, eh bien que notre société libérale marche sur deux jambes, la jambe du marché et la jambe du droit. Et que les deux s'alimentent l'un l'autre. Hein. Souvent, le droit sert à bien souvent dans ces sociétés libérales à préserver les avantages du marché et le marché lui-même a besoin du droit de toute façon pour éviter de trop dysfonctionner. Donc on a dans ces solutions qui conviendraient, hein, soit une étatisation des ressources, soit une privatisation de ces ressources. Alors c'est une vision. Évidemment, mon propos est très simple, hein, peut-être simpliste, mais c'est pour montrer un peu les débats de ces dernières années, les effets qu'ils peuvent avoir. On a eu du mal à sortir de ces conceptions dans l'enseignement dominant, et pourtant, autour de l'État et du marché subsistent un grand nombre de communautés, alors ici de petites communautés, mais qui existaient bien avant parfois des institutions politiques nationales ou des marchés, parfois depuis plusieurs siècles, mais elles étaient invisibles pour les économistes des deux siècles derniers. Et il a fallu qu'un groupe de chercheurs, plusieurs chercheurs dans le monde, se réunissent pour montrer qu'en réalité, il n'y a pas que l'État et le marché comme solution optimale pour empêcher l'extinction des ressources naturelles. Et on doit à Elinor Ostrom, qui est la première femme à avoir reçu le prix de la Banque de Suède pour ses travaux en économie, couramment appelé le prix Nobel d'économie, même si c'est pas tout à fait exact, parce que on parle pas de Nobel normalement en économie, mais bon, dans le langage populaire, c'est ce qui ressort. Elinor Ostrom, qui est malheureusement décédée en 2012, avec son école dans l'Indiana, l'école de Bloomington, a montré sur les 50 dernières années que l'extinction des communs n'était absolument pas une fatalité, et que bien au contraire, du Japon en passant par l'Espagne, dans un très grand nombre de pays dans le monde, en Suisse, dans les alpages suisses, eh bien, des communautés, depuis plusieurs siècles, parviennent à collectivement gérer durablement des ressources naturelles. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'on a pu enfin sortir de cette vision dichotomique, cette vision réductrice des seules solutions de l'État ou du marché. Et il y avait au cœur de ces travaux cette idée centrale que la gestion des biens communs impliquait une réhabilitation du collectif, croire au collectif, croire que nous ne sommes pas des homo economicus qui cherchons absolument à vivre de façon individualiste, à consommer de façon individualiste, mais qu'au contraire, on peut en fait collectivement s'entendre, coopérer sur le long terme pour sortir de ces logiques néfastes qui peuvent être celles de l'État ou du marché. Alors évidemment, ça suppose des conditions, et ces conditions sont le fait de se faire confiance, de se parler, de communiquer les uns avec les autres, et puis aussi de faire confiance dans le fait qu'on peut apprendre sur le long terme. Alors, les économistes ont montré dans le sillage d'Elinor Ostrom, des économistes hétérodoxes évidemment, et il y en a à Toulouse, ont pu montrer que pour le cas des ressources naturelles, il y avait des possibilités différentes de gérer les communs et de faire face aux menaces. Pour autant, de nouvelles menaces sont apparues, et c'est pour ça que je crois ce soir l'objet aussi de la conférence, c'était de faire état de nouvelles menaces. Et j'aimerais attirer votre attention sur le fait qu'au-delà des ressources naturelles qui sont dans bien des parties du monde, dans un état catastrophique, mais pour lequel on sait qu'il y a d'autres formes de gestion que l'État ou le marché, il y a des menaces très fortes sur le plan des communs immatériels. Et cela est largement dû au fait que ces dernières années, eh bien, un certain nombre d'économistes et de responsables politiques pensent que dans notre société de l'information, les connaissances peuvent être un nouveau capital, un capital immatériel qu'il s'agirait lui aussi de valoriser, de faire fructifier, contre des logiques qui seraient beaucoup plus celles du partage. Et alors, les exemples que j'ai pu retenir ces derniers temps, hein, vous avez dans cette photo en bas là, je ne sais pas si vous connaissez cette installation, c'est le Louvre à Abu Dhabi. L'État a considéré que le nom du Louvre pouvait faire l'objet d'un marchandage avec un autre État. Et donc l'État français est allé voir les Émirats arabes unis ici à Abu Dhabi et a négocié en échange de plusieurs centaines de millions d'euros l'exploitation du nom, la concession du nom, pour une durée de 30 ans. Alors, je crois que ça représente quelque chose comme 300 millions d'euros, j'ai plus le chiffre exact en tête, pour que cet État puisse apposer le nom du Louvre sur son musée à Abu Dhabi. Et puis vous avez un autre exemple ici, c'est la façade d'un palais italien qui appartient à la France et que l'État français valorise ici une centaine de milliers d'euros pour permettre à des cinéastes de tourner devant ces installations. Un autre exemple similaire, c'est celui du Louvre en France qui, pour le tournage du Da Vinci Code, a loué de nuit le musée. L'État a loué de nuit le musée à la production du Da Vinci Code et a du coup fait entrer dans le patrimoine immatériel et le capital immatériel de la France cet espace muséal du Louvre. Alors ça pose un certain nombre de problèmes évidemment parce que ne faut-il pas considérer que ces ressources, mais on n'ose pas les appeler ressources, ces éléments immatériels font pourtant partie du patrimoine commun, pas seulement de la France, mais de l'humanité, et qu'il apparaît difficile d'opérer des marchandages de la sorte. Il y a des marchandages encore beaucoup plus graves. L'exemple sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, c'est le fait que la bibliothèque municipale de Lyon signe avec Google, le géant américain, un accord il y a une dizaine d'années, en 2008, pour numériser l'intégralité de son fonds anciens. Et Google l'a fait gratuitement. Évidemment, on peut se poser la question pourquoi une entreprise américaine gratuitement numériserait les ouvrages anciens d'une bibliothèque municipale en France. C'est bien évidemment parce que Google, derrière, demande l'exclusivité de l'exploitation de ces ressources, de ce patrimoine culturel pour ses opérations sur Internet. Alors, si vous avez peut-être fait attention au fait que Google, en bourse, il y a 4 ans, en 2015, s'est renommé Alphabet. La société mère de Google s'appelle Alphabet. Et le président de Google de l'époque a fait un discours pour dire qu'en fait, le marché de Google, c'était le marché des mots. Et que Google, en fait, son business habituel, c'était d'acheter et de vendre des mots. Des mots-clés, de fait. Et que, opérant dans le domaine du marché des mots, il était légitime que sa société se renomme Alphabet, à savoir que tout l'alphabet pouvait un jour faire l'objet d'achats et de ventes par cet opérateur. Alors c'est extrêmement grave évidemment parce que le langage, depuis des décennies, est considéré par l'UNESCO comme étant un bien commun de l'humanité, les langages. Et de fait, comme les ressources naturelles, les langages progressivement disparaissent de la surface de la planète. L'UNESCO, en 2000, avait recensé 6000 langues dans le monde et 10 ans plus tard, 1500 langues avaient disparu. Donc des communautés qui parlent des langues très anciennes dans le monde progressivement disparaissent. Un globish mondialisé s'installe progressivement sur la surface de la planète. Et c'est tout à fait frappant de constater que, à l'heure même où ces langues anciennes parlées dans certaines communautés disparaissent, alors même où, à l'école, le grec et le latin subissent des attaques importantes, on cherche à enseigner le code. Parce que, pour le coup, l'UNESCO a aussi recensé que, dans le même temps que disparaissaient les langues humaines, il y avait une explosion sur les 20 dernières années du nombre de codes informatiques, de langages informatiques, dans les différents pays qui se mettaient en place. Alors, l'exemple de Google, il est significatif parce que, la bibliothèque municipale de Lyon a signé, mais la Bibliothèque nationale de France a refusé de signer. Et grâce au grand emprunt, j'ai mis une citation de Nicolas Sarkozy, le président de l'époque, la Bibliothèque nationale a eu un budget important pour poursuivre ses numérisations dans le cadre de sa bibliothèque publique Gallica, la Bibliothèque nationale du numérique Gallica. Il y a une trentaine d'années, quand François Mitterrand s'était posé la question de faire sortir de terre une grande bibliothèque nationale, une nouvelle grande bibliothèque nationale. Son conseiller de l'époque, son conseiller spécial Jacques Attali, lui avait recommandé de ne pas faire de bibliothèque nationale physique, d'enfouir les ouvrages sous terre et de faire une seule grande bibliothèque numérique. Donc il a pas eu gain de cause tout de suite puisque Mitterrand a choisi de faire édifier la BNF. Mais Gallica est né en 97 et de la même façon que Google pose un droit de propriété, Gallica sur les fichiers numériques appose un nouveau copyright, mais cette fois-ci un copyright public. Donc dans le domaine de la connaissance, pour des œuvres appartenant au domaine public, on retrouve des formes d'appropriation, qu'on soit du côté du marché ou du côté de l'État. Fort heureusement, dans ce domaine-là aussi, il existe des alternatives sous la forme de commons. Alors, l'exemple de Wikimedia a été cité tout à l'heure, vous avez un grand nombre de plateformes et de licences sur Internet qui s'appellent commons, licence Creative Commons. Mais Wikimedia opère Wikimedia Commons, qui est la bibliothèque multimédia qui permet de placer dans des espaces libres d'accès et sur lesquels les connaissances peuvent être partagées par tous, des biens communs de la connaissance. Des Knowledge Commons. Et la Bibliothèque nationale de France, peu de temps après la signature de Google avec la BML, a choisi de collaborer avec Wikimedia en plaçant sur Wikimedia Commons 1400 œuvres du domaine public pour qu'elles échappent à un copyright public. Alors, je voudrais citer des exemples locaux à Toulouse, puisqu'on a des cas connus ces 10 dernières années de collaboration entre des pouvoirs publics et des associations qui se réunissent pour faire vivre des savoirs communs, des ressources communes. Et à Toulouse, on a eu la chance sous la mandature de Pierre Cohen d'avoir un maire qui a facilité l'expansion de communs de la connaissance au sein de ces institutions publiques. Alors je voudrais vous citer deux exemples. Le premier, c'est celui du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, qui en 2010 a signé un partenariat avec Wikimedia pour que une partie de ses collections puisse apparaître sous la forme de biens communs de la connaissance sur la plateforme Wikimedia Commons. Et donc on a ici en photo Adrienne Alix, la présidente de l'association Wikimedia à l'époque, qui a signé avec le maire ce partenariat. Alors pourquoi un partenariat? Parce que le Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse, c'est des millions d'éléments de collection, des crânes préhistoriques, des éléments absolument... C'est le deuxième Muséum d'Histoire Naturelle de France après Paris, mais le Muséum n'a pas la place de montrer toutes ces collections au public. Et donc, M. Duranton, le président du muséum, au moment de la signature du partenariat, avait dit « mais il faut rendre au public ce qui lui appartient, ce qui appartient à la collectivité ». Et donc, l'idée a été de le faire sous une forme virtuelle, numérique, puisque comme ces collections sont dans des caissons sous azote, dans des kilomètres de souterrain sous la ville de Toulouse, on est au-dessus, hein, il s'agissait progressivement de les faire remonter, de les prendre en photo et de mettre ces photos avec des licences Creative Commons sur Internet pour qu'elles soient partageables, pas seulement par les Toulousains, mais aussi par des habitants, habitants parfois fort loin, puisque des coquillages qui étaient dans les collections du Muséum d'Histoire Naturelle ont beaucoup intéressé des habitants et des chercheurs de la Mer Noire qui ont entrepris du coup des collaborations avec le Muséum. Grâce au fait que sur les pages Wikipédia du muséum apparaissaient les photos de ces coquillages. Donc des projets existent et peuvent permettre de répondre aux menaces qui pèsent sur ces communs de la connaissance qui passent par des appropriations, par des entreprises privées ou par des organismes publics. Un autre exemple, c'est la collection virtuelle des photos d'Eugène Truta. Alors Eugène Truta, c'est un des premiers présidents du Muséum d'Histoire Naturelle. Il est en haut à droite, là. Et là, c'est un grand photographe au 19e siècle qui a fait des milliers de photographies de la région, Midi-Pyrénées. C'est un pyrénéiste aussi assez connu. Il a fait ici une photo de la place du Capitole en 1899, il y a 120 ans, où on voit qu'à l'époque, il y avait des tramways hippomobiles sur la place du Capitole, tirés par des chevaux. Et ces photos étaient disséminées dans plusieurs institutions culturelles de la ville de Toulouse, les archives municipales, la bibliothèque municipale, le muséum. Et grâce au partenariat avec Wikimedia Commons, elles ont pu être réunies sous un même fonds commun pour les rendre accessibles à l'ensemble de la population. Il est donc possible d'avoir des biens communs en ligne et des biens communs, des savoirs communs. Les langues font partie des biens communs de la connaissance. Un grand nombre d'éléments peuvent faire partie des biens communs de la connaissance, y compris les ressources génétiques. Alors c'est l'enjeu d'ouvrages comme celui coordonné par l'association VECAM, Libre Savoir, les biens communs de la connaissance, avec un propos d'Alain Rey, qui a le célèbre coordinateur des dictionnaires, le Robert, qui a fait la généalogie des communs, qui est extrêmement intéressant. Donc on a des publications qui montrent toute la richesse de ces communs, de la connaissance. Pour finir notre propos, rappeler que il y a des enjeux politiques importants autour de ces communs. Rappeler avec Hannah Arendt, c'est la citation du bas, que la culture est en danger quand il y a une mentalité fabricatrice qui envahit la sphère du politique et des savoirs, et que à partir du moment où on laisse notamment les médias de masse vouloir s'approprier ces communs, eh bien on menace la culture, on menace les savoirs communs. Que c'est bien aux politiques que revient le fait de préserver ces biens communs et de les subordonner au bien de la société tout entière. Et pour revenir plus haut à des personnages illustres, je cite ici Bossuet ou Saint-Augustin, qui disait que le patrimoine intellectuel, spirituel, historique est commun de soi, hein, et qu'il portait une grave atteinte à la société que de vouloir priver ce bien public, ce bien commun de l'ensemble de la société. Pour ça, ça suppose de revenir à une autre anthropologie, qui n'est pas celle de l'anthropologie de l'homo economicus, mais de reconnaître que, et revenir au savoir grec, que l'homme peut avoir des notions morales et pas seulement des notions de fabrication, de production, de consommation, et que les communautés, la famille, mais d'autres communautés, sont des communautés dans lesquelles vivent eh bien ces sentiments, et qui montrent qu'il peut y avoir une autre vision de l'homme, une autre vision de l'humanité que celle qui nous est vendue par les courants dominants de l'économie. Et que c'est à cette condition qu'on pourra retrouver des vertus importantes qui nous manquent aujourd'hui, et notamment la vertu la plus élevée au sens grec, qui est la vertu de justice. Et quand ces communs font l'objet d'appropriation, c'est bien parce qu'il y a une perte de cette notion de la justice générale qui vise l'union de l'ensemble des membres de la société. Donc il nous faut retrouver un juste rapport des biens communs aux biens communs, et sans doute nourrir. Il y a des initiatives hein, qui vont dans ce sens. Je pense au mouvement du MOS, le mouvement anti-utilitariste en sciences sociales, porté par des personnalités comme Alain Caillé. Il y a un mouvement, le mouvement AH, point d'exclamation, qui a été mis en place il y a quelque temps. Mais il nous faut certainement travailler dans le sens d'une charte, comme on a eu une charte au XIIe siècle en Angleterre, avec l'habeas corpus, une charte des forêts qui a préservé pour un temps certains communs en Angleterre. Il nous faudrait certainement une nouvelle charte pour les communs de la connaissance. Je vous remercie pour votre attention.